Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent et notamment celle de notre générique, évidemment une musique de film, vous l'aurez compris, en l'occurrence un petit bijou signé Blake Edwards, 1962, Audrey Hepburn et George Peeper dans les rôles principaux. Ça s'appelle Diamant sur canapé. La musique en est signée de Henry Mancini, un de nos favoris. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons évoquer la carrière d'un réalisateur français prestigieux, même si l'homme n'a réalisé que 9 longs métrages depuis ses débuts en 1958. C'est dire qu'il aura été parcimonieux, mais il l'aura été parce que chacun de ses films fait l'objet d'une préparation méticuleuse et qu'il faut qu'il ait un coup de cœur pour le faire. D'autres, par ailleurs, vous le verrez, ou plutôt vous l'entendrez, certains de ces films sont chers et par conséquent, qui dit cher dit long dans le monde du cinéma. Jean-Paul Rapneau, c'est le nom de ce réalisateur et scénariste, né le 8 avril 1932 dans la bonne ville d'Auxerre, dans l'Yonne, pas très loin de Paris. Jean-Paul Rapneau commence en tant que scénariste, puisqu'en 1958, il signe son premier scénario pour un film d'Yves Robert intitulé « Signé Arsène Lupin », encore un personnage français bien prestigieux. Suivront quelques autres scénarios relativement remarqués, notamment l'adaptation, et c'était pas gagné, du Zazie dans le métro de Raymond Queneau, adapté avec Louis Malle comme réalisateur et Philippe Noiret comme acteur principal, qui ma foi a été très très réussi. On verra aussi Jean-Paul Rapneau accompagner ce même Louis Malle dans le Vie privée avec Marcello Mastroianni et Brigitte Bardot, qui par contre n'était pas forcément une très très grande réussite. On le verra aussi avec ce petit chef-d'œuvre qui est L'Homme de Rio de Philippe de Broca, tourné en 62 avec Belmondo. Bref, pendant le début des années 60, eh bien, Jean-Paul Rapneau signera des scénarios remarqués. Bien évidemment, l'étape suivante, eh bien, c'est le passage du dit Jean-Paul à la réalisation, ce qui sera effectif en 1966 avec un premier film intitulé La vie de château. Un film dans les rôles principaux duquel on retrouvait là encore Philippe Noiret avec à ses côtés Catherine Deneuve et Pierre Brasseur. Comme j'ai déjà été assez bavard, eh bien on va écouter un premier extrait musical. La bande originale de ce film, elle est signée de Michel Legrand. Encore un autre de nos chéris. Michel Legrand, La vie de château dans 24 notes secondes. Thank you. Michel Legrand, pur sucre, pur jus, pour un extrait de la bande originale de La Vie de Château, un film de Jean-Paul Rapneau tourné en 1966, le premier film de Jean-Paul Rapneau qui rencontra d'une part un grand succès public, il faut dire qu'avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret et Pierre Brasseur en tête de distribution à l'époque, ça semblait facile, et puis surtout il remporta un succès critique, ce qui n'était pas gagné pour une comédie, mais une comédie un peu particulière puisqu'elle se situait pendant l'occupation, plutôt à la fin d'occupation, à partir de 1944, on voyait à la fin l'héroïne, donc Catherine Deneuve, alias Marie, qui défilait sur les Champs-Élysées dans Paris libéré. Et le film était une sorte de vaudeville sur les relations entre les troupes d'occupation, les Anglais qui venaient d'arriver, les forces françaises libres, etc. Donc un genre un peu particulier sur un sujet quand même un peu polémique en France. Et le film, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, obtint le prix Louis Delluc, qui reste encore de nos jours le prix le plus prestigieux de la cinéphilie française. Il était pourtant en concurrence avec un concurrent peut-être mieux placé, en l'espèce un Suisse dénommé Jean-Luc Godard, qui tournait et qui réalisait cette année-là Pierrot le Fou avec Jean-Paul Belmondo, qui reste un des grands films de Jean-Luc Godard. Et donc, quand on a appris que le prix Louis Delluc, le plus prestigieux, était décerné à une comédie sur la résistance, ma foi, cela fit quelques bruits, mais c'était aussi récompenser la qualité du travail de Jean-Paul Rapneau, qui était réalisateur, je l'ai déjà dit, mais aussi co-scénariste, avec à ses côtés deux cinéastes co-scénaristes, Alain Cavalier et Claude Sauté, l'un comme l'autre en 1966, avaient déjà réalisé en propre des films, mais en l'espèce, ils s'étaient alliés, et c'était cette qualité générale du film, avec les dialogues de Daniel Boulanger, une magnifique photo signée Pierre Lhomme, bref, les grands noms du cinéma français de l'époque, qui fit de La Vie de Château une grande réussite, tout comme sa musique, bien sûr. Ai-je besoin de le souligner, elle est de Michel Legrand. Et du coup, eh bien, six ans plus tard seulement, Jean-Paul Rapneau récidiva plus ou moins avec les mêmes, puisqu'on retrouva Claude Sauté à l'adaptation du scénario, on retrouva Daniel Boulanger au dialogue, on retrouva quelques secondes, Michel Legrand à la musique. Par contre, la tête de distribution, mais cette fois, c'était le fameux Pierrot le Fou, en l'espèce Jean-Paul Belmondo, avec à ses côtés les délicieuses Marlène Jobert et Laura Antonelli. Le film s'appelle Les Mariés de l'an 2, et vous l'aurez peut-être compris si vous avez quelques cultures. Ça veut dire que le film se passe en 1794, donc, puisque l'an 0, c'est 1792, et il raconte donc une histoire d'amour sur fond de Révolution française. Alors, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire la résistance et une histoire d'amour. Là, c'est la Révolution française et une histoire d'amour, mais la Révolution française, contrairement à la résistance et à l'occupation, a priori, c'est un morceau d'histoire que personne ne songe à contester, sauf aux franges les plus extrêmes droites de la population. Bref, le film, c'est une totale réussite, encore plus réussie à mon avis que La Vie de Château. Un petit bijou de drôlerie et de subtilité historique et une musique de Michel Legrand. Mais alors là, aux petits oignons, je vous laisse en écouter un extrait, 24 notes secondes et Les Mariés de l'an 2. Thank you. Ah, comme il nous manque celui-là, Michel Legrand, la bande originale des Mariés de l'an 2, un film de Jean-Paul Rapneau, une petite merveille, vraiment, il faut le voir, ça a plus de 50 ans, mais ça n'a certainement pas vieilli, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ma foi, je pense que c'est comme moi, ce genre de choses ne vieillissent pas. On va continuer évidemment à évoquer la carrière de Jean-Paul Rapneau. En 1975, on ne va pas évidemment écouter des bandes originales de tous ses films, on le retrouva dans Le Sauvage, avec à nouveau Catherine Deneuve en vedette et Yves Montand à ses côtés, un film peut-être plus en demi-teinte, avec un scénario co-signé par Elisabeth Rapneau et par Jean-Loup Dabadie, donc un style un peu différent de celui de Claude Sauté, encore une musique de Michel Legrand. Et on va plutôt écouter un extrait de la bande originale de Tout feu, tout flamme, un film tourné cette fois en 1982, qui mettait en vedette à nouveau Yves Montand, mais à ses côtés, il y avait Elisabeth Adjani, et il y avait même Alain Souchon. C'était l'époque où Alain Souchon faisait des films, sauf de ma part, on le vit aussi dans L'amour en fuite, le dernier épisode des aventures d'Antoine Doinel au cinéma. Antoine Doinel, François Truffaut, je pense que vous avez fait le rapprochement, ou pas, mais maintenant c'est fait. Tout feu, tout flamme, et bon, c'est une histoire d'un homme relativement exubérant, incarné évidemment par Yves Montand, et qui retrouve ses trois filles, avec évidemment, quand on pense à un homme et trois filles, et qu'on est un petit peu lettré, eh bien on pense au Roi Lear de William Shakespeare, avec ses deux filles très et Cordélia, sa fille fidèle, mais évidemment celle qu'il va répudier puisque elle lui dit la vérité et qu'il préférera pour son malheur, je vous le rappelle, les mensonges. On va dire que Tout feu, tout flamme est lointainement, très lointainement inspiré de Shakespeare. Ma foi, c'est là encore une réussite un peu mineure, mais ça nous permet d'écouter quelqu'un qui, à ma connaissance, aura composé peu de musique de film et qui pourtant a eu une place fondamentale dans la variété française, Michel Berger. Voilà, on va écouter donc un extrait de cette bande originale, Tout feu, tout flamme, 1982, dans 24 notes secondes. Like between the day and the night, like between the sky and the tree, like between the dark and the light, it happened again. Between you and me, between you and me, yeah. Like between bien, tout à l'heure, on pouvait reconnaître la patte de Michel Legrand. Là encore, on reconnaît la patte de Michel Berger. Alors, je suis bien désolé, j'avoue ignorer quelle est la chanteuse que vous avez entendue. Mais par contre, c'est bien Michel Berger qui a composé la bande originale de Tout feu, tout flamme, un film de Jean-Paul Rapneau tourné en 1982 avec à nouveau de prestigieux collaborateurs, puisqu'il y avait notamment Pierre Lhomme à la photographie, des noms qu'on a peu souvent l'occasion d'entendre, mais qui contribuent pour beaucoup au succès des films dans lesquels ils apparaissent, dans le générique desquels ils apparaissent. Soyons justes. Ensuite, eh bien là encore, il s'écoula quelques années, de nombreuses années en fait, puisque entre 1982 et 1990, 8 ans, Jean-Paul Rapneau ne tourna pas de film, mais il fallait quand même 8 ans sans doute pour transposer à l'écran de façon convaincante un monument du théâtre français, en l'espèce Cyrano de Bergerac, une pièce en alexandrin signée, faut-il le rappeler, d'Edmond Rostand, et qui raconte de façon évidemment très romancée, les amours impossibles du grand Savinien de Cyrano de Bergerac dans une langue qu'on a bien perdue de nos jours. Ne me parlez pas de Twitter et ce genre de choses. Bref, une langue déjà un peu précieuse à l'époque où Edmond Rostand l'employait, mais qui fut un succès considérable au théâtre et qui reste un succès considérable au théâtre. Tous les grands acteurs français ont un jour incarné à la scène Cyrano de Bergerac. Au cinéma, il fallait évidemment un monstre pour l'incarner. Et en 1990, un peu moins maintenant, mais en 1990, il n'y avait qu'un seul monstre capable d'incarner Cyrano. C'était bien évidemment Gérard Depardieu. Et ma foi, eh bien, il le fit avec le panache qu'il avait à l'époque, peut-être un peu moins maintenant. Et ma foi, le film fut une totale réussite. La seule chose que les puristes, mais vraiment, ils furent bien peu nombreux, ne goûtèrent pas, pardonnez-moi, ce fut le fait que Jean-Claude Carrière, qui était le co-scénariste de ce film, d'adaptation d'Edmond Rostand, écrivit une bonne centaine d'alexandrins à la manière d'Edmond Rostand, mais ma foi, c'est Jean-Claude Carrière, donc il le fit avec le brio qu'on lui connaît, puisqu'il n'était pas question, même si le film est fort long, il n'était pas question d'adapter intégralement la pièce, et par conséquent, eh bien, il fallait tailler dans les alexandrins et en rajouter quelques-uns pour la continuité scénaristique. Ma foi, ce fut parfait. Aux côtés de Gérard Depardieu, il y avait Vincent Pérez dans le rôle de Christian de Neuvillette, l'amoureux que Cyrano de Bergerac aide. La délicieuse Anne Brochet incarnait quant à elle Roxane, l'amoureuse des deux en fait. Et puis il y avait Jacques Weber, et puis au costume et à la photographie, il y avait à nouveau Pierre Lhomme. Bref, il y avait tout pour faire une réussite, et ce fut une réussite. Et ce fut une réussite à la fois critique et publique, là encore, à l'époque. Peut-être que maintenant, ça serait plus difficile, mais on pouvait monter des films très chers. On peut envisager que celui-là l'a été. Et exigeant, puisqu'un film en alexandrin sur la vie d'un chevalier du XVIIe siècle, c'était pas gagné d'avance, et trouver quand même un succès public. Ce fut le cas. Cyrano de Bergerac reste encore 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, un grand monument du cinéma français qui fut récompensé par le César du meilleur film, le César du meilleur réalisateur, le César du meilleur scénario original ou adaptation en l'espèce, bref, qui fut couronné de succès qu'il méritait. Il fut même nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, mais ma foi, il ne l'obtint pas. Ce n'est pas grave, on va écouter évidemment un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Jean-Claude Petit, Cyrano de Bergerac dans 24 notes secondes. le panache à la française, Jean-Claude Petit, Jean-Paul Rappeneau, un extrait de la bande originale de Cyrano de Bergerac, comme on me l'a fait remarquer perfidement en régie, je me suis lâché sur Cyrano de Bergerac, mais ma foi, l'enjeu en valait la peine, et c'est ça, le panache. Du coup, on n'aura pas le temps d'évoquer l'autre grande réussite de Jean-Paul Rappeneau, Le Hussard sur le toit, d'après Jean Giono, un magnifique film, là encore, avec Juliette Binoche et Olivier Martinez dans les rôles principaux, et on va se quitter en écoutant un extrait de l'avant-dernier film de Jean-Paul Rappeneau. Depuis, on a tourné un autre qui ne restera pas dans les mémoires, un film intitulé « Bon voyage » et qui retrouve à peu près l'époque de la vie de château, mais à ses tout débuts, c'est-à-dire que le film se passe en juin 1940, dont je rappelle aux jeunes générations que cela marqua la défaite de l'armée française, l'exode, etc., le repli du gouvernement à Bordeaux. Et justement, le sujet du film, c'est ça, c'est ce repli du gouvernement à Bordeaux et toutes les turpitudes politico-collaborationaux, résistants, ce que vous voulez, qui en découlèrent. Dans les rôles principaux du film, il y a surtout des filles en fait, Isabelle Adjani et Virginie Ledoyen. Et on va se quitter en écoutant sur une musique de Gabriel Yared, la douce voix justement d'Isabelle Adjani. Le film il s'appelle Bon Voyage, je ne sais même pas si je l'avais déjà dit. Et comme il s'agit de la douce voix un peu frêle d'Isabelle, eh bien je vais me garder de la couper pendant son interprétation. C'est maintenant donc que je vous souhaite à bientôt, bonjour, tout ce genre de choses. See you, bye bye dans 24 notes, second. Juste un aller.